s'adresse aux enfants entre 4 et 6 ans, qui vont être proposés à plusieurs dates, les mercredis 22, samedi 25 et mercredi 29 juillet. Ce sera l'occasion pour les tout petits de réaliser une première ouverture sur l'art contemporain à travers des champs artistiques et créatifs conçus spécialement pour eux. Les activités s'appuient sur des œuvres de la Biennale d'art installées dans la ville, comme La Chouette Lapone de Laurent Dunf ou La Licorne de Mars de Lionel Sabaté. Ce sera accompagné de livres jeunesse et de comptines.
Je précise juste, Frédéric, oui, par rapport à ça, que pendant tout l'été, effectivement, vous pouvez retrouver d'autres activités autour de la Biennale d'art contemporain avec l'ensemble des établissements culturels. Le programme est sur culture.evreux.fr.
Pour compléter cette forme d'atelier sur le village du sport, vous pourrez également retrouver à la découverte du geste artistique, de l'impressionnisme à l'art contemporain. Donc ces rendez-vous seront proposés les 18, 22, 25 et 29 juillet. Ces ateliers sont ouverts à toutes et tous dès 6 ans. Ces ateliers proposent une découverte ludique et sensible à la création de l'art contemporain. De quoi se laisser inspirer par les couleurs et les touches de l'impressionnisme pour entrer dans une pratique contemporaine et expérimenter différentes matières et techniques. En complément de ces deux formes d'ateliers, vous pourrez également retrouver à l'occasion de la Biennale d'art contemporain et du centenaire de la disparition de Claude Monet, d'autres formes de médiation comme la microfolie, les mini escape games, et puis encore sur le village du sport et de la culture, dans le cadre de la 12e édition Partir en livre, et bien nos collègues Frédéric, Magali et Christophe vous proposeront des balades racontées. Voilà pour cette partie village du sport et de la culture, et pour la partie des temps forts, voilà, de l'émission. On poursuit avec une page musicale.
Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
You only live twice.
l'instant la douce voix de Nancy Sinatra, accompagnée par les magnifiques compositions de John Barry pour le titre You Only Live Twice, BO classique incontournable dont ne vit que deux fois, interprété au cinéma par Sir Sean Connery dans Biblio Plus Plus. Et quoi de mieux qu'une magnifique BO de James Bond dédiée au cinéma pour enchaîner avec nos invités. J'ai bien dit deux invités. Ce mois-ci, c'est deux invités pour le prix d'un. C'est le luxe. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Laura Vermont et Denis Leplat. Laura Vermont, chargée d'éducation artistique et culturelle à la direction de la culture et du patrimoine. Et notre collègue également, Denis Leplat, chargé des collection cinéma et des projections sur le réseau des médiathèques. Merci à tous les deux d'être présents pour clôturer en beauté cette saison d'émission Biblio Plus Plus. Alors on vous reçoit aujourd'hui pour parler de cette nouvelle saison des ciné-plénaires qui auront lieu, comme je le disais tout à l'heure, entre le 10 juillet et le 28 août dans tous les quartiers d'Évreux. À mes côtés, Nadège sera aussi présente pour échanger avec vous pour mettre en valeur cette belle programmation sur laquelle vous avez travaillé tous les deux. Mais pour commencer, première question que j'avais envie de poser à Laura, car tu nous as rejoint depuis quelques semaines sur ce poste, tu peux nous rappeler un petit peu tes principales missions et de quoi s'occupe-t-on quand on est chargé d'éducation artistique et culturelle?
Alors bonjour.
Bonjour.
En tant que chargée de projet éducation artistique et culturelle, alors on raccourcit souvent en disant EAC.
Ouais.
En fait, le principe, c'est de pouvoir coordonner l'ensemble des médiations qui vont avoir lieu ou qui ont lieu dans les différentes structures culturelles de la ville. Donc ça comprend les musées, donc musée d'Évreux, musée d'instruments à vent, les médiathèques, la maison des arts, le conservatoire et le service archives et patrimoine. Voilà, l'idée, c'est d'avoir de la cohérence dans les médiations. Et moi, mon poste, il est plus spécialement sur le public 0-25 ans.
Voilà. Donc voilà, qui a toute sa part donc pour la programmation des ciné-plénaires.
Exactement.
Et par rapport à l'organisation des ciné-plénaires, donc on va parler du programme. Qu'est-ce qui veut nous détailler un petit peu cette belle programmation à venir que tous les publics vont pouvoir découvrir?
Alors, si je peux me permettre, Frédéric, ce que j'aurais bien voulu poser comme question, c'est justement d'expliquer un peu parce que j'ai des petites infos et c'est très d'expliquer un peu comment vous avez justement travaillé cette programmation parce que elle est liée à ces questions d'éducation artistique et culturelle et comment vous avez articulé le projet qui s'est un petit peu modifié avec les années. Denis, je ne dis pas de bêtises, tu m'arrêtes si je me trompe et je vous laisse répondre, pardon.
Oui, bonjour à tout le monde. Alors, pour refaire un petit peu d'historique, le cinéma en plein air à Évreux existe depuis 2014. Donc il s'est inscrit dans le temps, dans nos habitudes. C'est devenu un rendez-vous maintenant très très attendu. Donc on a dit il a évolué. Les partenaires semblent rester un petit peu les mêmes, puisque aujourd'hui nous avons toujours ce partenariat avec l'Agora Saint-Michel, avec les maisons de Navarre, le centre social et culturel, la MJC, et bien sûr la L2E. On continue de travailler avec eux en bonne intelligence pour choisir donc le programme qui serait à nos yeux le plus adapté pour nos publics.
C'est ça, et l'objectif c'est vraiment de co-construire avec eux une programmation. Alors Denis qui est spécialisé dans comment on peut dire ça, cinégraphie, je ne sais pas si ça se dit, enfin, en tout cas dans le cinéma, a fait une sélection de films qu'on a pu proposer aux jeunes justement de l'Agora, de la L2E et de Navarre. Pour qu'ils puissent en fait voter pour les films dont ils souhaitent en tout cas porter dans les différents lieux de leur quartier. Donc ça c'est vraiment co-construit ensemble.
L'idée, c'était aussi, enfin, ils ont seulement voté, ou vous avez fait un travail aussi, parce que justement, tu parlais de la spécialité de Denis en cinéma. Denis, il est référent cinéma à la médiathèque, mais ça veut dire aussi que vous avez, comment dire, expliqué aux jeunes un peu comment, qu'est-ce que c'est que programmer du cinéma pour du tout public, comment on fait, pourquoi on choisit des films, comment, quelles sont les contraintes. Enfin, je sais pas, ils ont fait un travail de ce type-là avant de voter, ou comment oui. Vous avez amené ça
Oui, il y a eu un travail justement sur. Sur aussi leur amener, enfin en tout cas leur apporter les clés un peu pour travailler une programmation. Mmh. C'est pas juste voilà, j'ai un film qui me plaît, je le programme. C'est aussi se dire voilà, pour quel public je programme ce film là, dans quel but, qu'est-ce qu'on recherche. Et aussi enfin je sais que Denis leur avait parlé aussi beaucoup de tout ce qui touche aux droits de diffusion. Enfin, voilà, c'est important. Tout ce qu'il y a autour en fait de la diffusion de ces films-là, mais peut-être que tu veux rajouter quelque chose, Denis.
Oui, simplement pour redire que dès lors qu'on programme donc une projection en public, donc il y a des droits à payer, des droits d'auteur, donc ils sont variables en fonction de certains distributeurs. Donc j'avais évoqué ça lors des différentes présentations en disant que c'était très variable. Et que donc on a fait encore l'expérience cette année où on peut pas programmer pour ce qui est de nos budgets, donc tout ce qui est Disney, Pixar, parce que c'est beaucoup trop cher pour nous.
Voilà, au moins ça leur donne les clés pour un peu connaître comment on fait une programmation et pourquoi voilà ne pas choisir certains films aussi.
Et comment ils s'approprient justement cette manière de co-construire avec vous, puisque en fait c'est les premières fois où ils participent, donc ils ont découvert, vous leur avez donné les codes. Est-ce que pour eux c'est il y a un échange qui laisse entendre qu'ils vont s'inscrire dans la durée pour les prochaines saisons à venir? Comment ils ressentent un petit peu cet échange que vous installez entre vous et eux?
Alors, dans le groupe, donc notamment de ceux que des ados qui étaient avec nous pour le groupe qui venait avec Pierre Loquet de Saint-Michel, donc un certain nombre avaient déjà participé l'an passé au choix des films, donc ils savaient à peu près comment ça se passait. Donc c'est on leur a passé donc un certain nombre de bandes annonces, on leur a expliqué un petit peu le film, donc ils ont pu faire leur choix déjà sur ces bandes annonces là. Je sais qu'il y a certains qui les avaient déjà vus auparavant, je dirais à domicile avec les différents animateurs.
Ils se prennent facilement au jeu, sent que ça leur plaît.
Oui, il n'y a aucune difficulté.
Ouais, en fait, le cinéma, je pense que c'est quelque chose qui les touche et qui leur parle. Et donc, en effet, il n'y a pas. Enfin, en fait, le lien, il se fait facilement par ce billet-là. Et en fait, l'envie de poursuivre sur les prochaines années, il vient d'eux, principalement, parce qu'en fait, la plupart nous disent, vivement l'année prochaine pour qu'on.
Oui, ils sont déjà dans la projection.
Mmh. Ça, c'est top. Non, c'est pas.
et justement. On voit aujourd'hui que ce principe de co-construction se développe dans différentes formes de programmation. C'est quoi l'intérêt justement, si on regarde de façon plus globale, ce principe de co-construire avec la population, est-ce que justement ça répond à des nouvelles attentes? Est-ce que ça permet surtout de détacher un petit peu comment dire, les publics des nouveaux modes d'utilisation qui peuvent être parallèles? Est-ce que c'est aussi un moyen d'intégrer le côté citoyen à de la programmation? Comment vous voyez justement le développement de cet esprit de co-construction?
Je pense qu'en fait ça part aussi du fait de maintenant vouloir partir des envies du public. Voilà, en fait l'objectif de co-construire cette programmation avec eux, c'est aussi de les impliquer et qu'ils se sentent, en tout cas que ça leur parle, quoi. Que ce soit une envie de leur part et que ce soit pas juste quelque chose qu'on leur propose.
Et de répondre davantage à ouais. leurs attentes.
Et les impliquer, c'est aussi une forme de, enfin pour eux, de se sentir au cœur du projet et de pouvoir le porter aussi auprès de, d'un public plus large.
Oui, parce qu'ils en comprennent mieux finalement les tenants, les aboutissants, ouais. les contraintes, parce qu'il y a quand même un aspect qui me semble assez essentiel dans la façon dont vous travaillez avec eux, notamment dans les propositions que tu fais, Denis, c'est que on est sur quand même, en fait, tu disais Laura, on part aussi des gens pour construire avec eux, et on n'est pas seulement prescripteur à dire bah voilà, il y a ça qui est bien regardé, mais il y a quand même une proposition, parce que c'est aussi notre rôle en tant que spécialiste de pouvoir leur proposer d'autres choses que peut-être ce qu'ils verraient quand c'est rediffusé en télévision ou en cinéma plus commercial, mais ça permet aussi de les ouvrir à un autre champ tout en leur montrant qu'il y a d'autres possibles et qu'ils se les approprient. C'est un peu ça aussi l'idée, non Denis? Je te vois pas, pardon.
Oui, c'est d'abord garder l'idée que ça doit être un événement collectif.
Ouais.
Donc c'est le collectif qui prime. C'est pour ça que les différents partenaires donc, ont à cœur aussi de proposer des animations. Ça peut être des jeux, ça peut être aussi un repas partagé. Il y a bien sûr donc, l'application des adolescents dont on a parlé. C'est le fait aussi qu'on demande aussi qu'ils puissent diffuser avant le film principal une bande-annonce. Ou ça peut être aussi un récit d'un moment de vie qu'ils ont passé avec au sein des associations. Ça peut être un petit voyage qu'ils ont fait ensemble et dont ils veulent nous raconter un petit peu l'histoire. Mmh. Et puis bien sûr, c'est aussi, moi je veux leur demander de pouvoir présenter le film à chaque fois.
Ah, ça aussi c'est la petite nouveauté alors, parce qu'auparavant
non, on l'avait fait l'an passé aussi.
D'accord. Parce que c'est vrai qu'on a aussi coutume de vous voir introduire à chaque fois la soirée avec la présentation du film, de son auteur. Mais le fait de les inviter à prendre la parole devant les publics, ça installe encore et ça prolonge le lien au-delà de l'aspect préparation. On est dans la continuité.
C'est ça, c'est ce que disait Nadège tout à l'heure. On n'est pas seulement organisateur, prescripteur. On veut que tout le monde participe à l'événement.
Et donc chaque année, il y a une belle programmation, mais est-ce que vous vous imposez, alors tout à l'heure tu le rappelais Denis, il y a des codes hein, précis qui vont être les droits de projection, un catalogue qui va avoir une certaine quantité, des titres référencés qui vont limiter le champ, mais est-ce qu'au-delà de tout ça, vous avez aussi envie de donner des thématiques ou une ligne artistique, entre guillemets, ou c'est plutôt difficile à imposer justement ce principe si on mélange les suggestions de part et d'autre, ça reste possible ou c'est plutôt compliqué de mettre en place une ligne éditoriale?
C'est possible, mais ça demande un peu plus de travail. Peut-être qu'on le fera l'année prochaine, de travailler un petit peu plus une thématique. Moi, pour la sélection 2026, donc j'ai plutôt axé sur des nouveautés.
Bien sûr.
Et je pense que ça se travaille sur la durée aussi. Voilà, c'est pas en un one shot qu'on peut créer ça. Ça se travaille sur la durée, mais l'objectif, oui, c'est d'en créer, d'avoir une identité artistique qui puisse se distinguer de cet événement-là.
Alors, tout à l'heure, j'évoquais le détail de la programmation. Il y aura aussi des choses à évoquer. Je ne sais pas si vous aurez envie de l'aborder avant ou après le détail de la programmation, mais il y a aussi des nouveautés dans la forme, parce qu'il y a des nouveaux lieux qui sont mis en avant. Est-ce que vous voulez commencer par évoquer ces nouveautés ou plutôt le détail de la programmation pour donner un petit peu l'envie et susciter l'intérêt des gens qui nous écoutent dans l'émission?
On peut commencer par parler des lieux, je dirais, un petit peu habituels.
Oui.
Donc, comme l'an passé, on aura une séance dans la cour de l'école Rochereuil, dans le quartier de Saint-Michel.
D'accord.
Qui est un espace qu'on a testé l'an passé, qui nous convient tout à fait, qui est vraiment très, très large, qui est bien accueillant. À Netreville, on n'ira pas sur la place Suffren comme les années précédentes, mais plutôt du côté de la maison de quartier de Netreville, rue du Guet-Rouin, sur l'espace vert qui se trouve tout à côté de la maison de la culture. Ça, c'est une demande de la L2E.
C'est très bien.
Qui nous a demandé de pouvoir changer de lieu. Après, sur la Madeleine, donc c'est plus classique, c'est la place Kennedy à côté de la maison de quartier. Navarre, ça reste donc la cour de l'école élémentaire.
D'accord.
C'est aussi qu'on teste depuis quelques années. Et enfin, une nouveauté, Bah, peut-être, Laura, peux-tu nous en parler?
On clôturera cette année le 28 août dans le parc Saint-Louis avec un film. Je peux le dévoiler, c'est vrai.
Oui, oui.
qui s'appelle donc Le Tableau Volé, qui est une comédie dramatique. Et on a donc sélectionné ce film en écho à la Biennale d'art contemporain, qui a lieu jusqu'en septembre. Et donc, comme deux œuvres sont installées dans ce parc Saint-Louis, il nous a semblé opportun de pouvoir proposer aussi une séance de ciné plein air à cet endroit-là.
Oui, puis l'espace en lui-même se prête totalement à faire découvrir et à profiter de ce lieu à tous les publics. C'est vraiment un bel espace. Je pense que cette diffusion aussi va prendre tout son sens entre les œuvres qui sont proposées et la diffusion de cette projection.
Tout à fait.
Est-ce que Denis, toi, tu voulais revenir aussi un petit peu en détail sur les titres proposés dans votre sélection ?
Oui, bien volontiers. Donc le 10 juillet, donc la légende d'Oshi. C'est un film d'aventure, un film d'animation, donc qui est réservé à un public plutôt familial.
À Saint-Michel, donc.
À Saint-Michel.
Le 17 juillet, 4-0, pour apprécier cette comédie sociale et humaine, il n'est pas nécessaire de s'y connaître en football, ni d'avoir vu 3-0 auparavant. Le quatuor Nanty, Lanvin, Bourdon et Deby fonctionnent à merveille pour séduire un large public.
Donc à Netreville, le 17 juillet.
Netreville, voilà. Là, on est dans la thématique du moment, en plus, de la Coupe du Monde.
Le 4 août...
À la Madeleine.
Donc, là, c'est l'histoire de Hadja, 18 ans, qui brûle du désir de vivre intensément. Elle cherche sa voie entre sa meilleure amie influenceuse, qui brille sur les réseaux sociaux, et son footballeur de grand frère, qui sature tout l'espace de réussite familiale. Inattendu que lui propose la ZAD, la zone à défendre, installée à la limite de son quartier, l'attire. On va s'enchaîner après toute une série d'aventures qui la concernent. Donc un film vraiment très très, très attachant d'Émilie Carpentier. Ensuite, le 26 août...
À Navarre.
Donc, quand Pio et Anaïs annoncent leur mariage à leurs amis, c'est clair, ce sera sans enfant. 3 jours de fête et de prosecco en perspective.
Ouais. C'est un programme.
Je crois que Nadège va être invitée.
Ah bon?
Mais quand leur bande de potes débarque avec les enfants, pensant pouvoir les cacher aux mariés, les catastrophes vont très vite arriver. Donc je ne vous en dis pas plus. Donc on vous donne rendez-vous l'été qui va venir, en juillet et en août, pour voir tous ces merveilleux moments. Donc à la nuit tombée, vers 21h30.
Eh bien, écoutez, le rendez-vous est pris d'ores et déjà. Donc, on invite le public à découvrir dans le détail donc le programme de cette nouvelle saison des Ciné Plein Air. Vas-y, je t'en prie, Denis.
On peut remercier à l'avance donc les adolescents qui ont participé au groupe.
Mais bien sûr.
De remercier nos différents partenaires. On les a associés tout le long de ces derniers mois à ce travail de préparation. Donc, voilà.
Donc on retrouve toutes les informations donc,
sur culture.evre.fr.
Voilà.
Et puis il y a une petite carte postale assez sympa, une affiche qui circule avec toutes les dates de l'été, tous les films et les lieux.
Eh bien voilà, le rendez-vous est pris. Merci à tous les deux d'être venus
nous
en parler.
Your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 decide to do Jolene.
Actif.
Nous recevons Laurent, donc référent musique à la médiathèque Roland Plaisance, gestionnaire de collection au sein du réseau des médiathèques et assistant programmation, qui est présent donc dans cette rubrique coup de cœur. Alors avant de démarrer sur ton coup de cœur, notamment le livre Au cœur de la country, légendes et phénomènes de Clovis Gou aux éditions Cherche Midi, tu peux nous dire s'il te plaît en quelques mots pour le titre qu'on vient d'entendre à l'instant, Jolene de Dolly Parton, pourquoi tu l'as choisi pour introduire en fait cette rubrique coup de cœur sur lequel on va échanger autour de Clovis Gou, s'il te plaît.
Alors parce que j'adore Dolly Parton évidemment, et puis aussi parce que c'est une des figures féminines fortes qu'on trouve dans le livre de Clovis. La thématique de la représentation des femmes sur les scènes, elle est très présente aujourd'hui, hein. C'est un problème qui a toujours pas été réglé. Quand on voit comment Dolly Parton a pu imposer des thématiques, a pu incarner à elle seule la country en tant que nana dans un milieu largement dominé par le genre masculin et extrêmement macho, hein. Faut pas rêver, le rock et la country sont des milieux très très masculins. Moi je trouve ça extraordinaire, et puis elle a tout, Dolly Parton, elle a tout, enfin la voix, les thématiques, je la trouve extraordinaire, Dolly Parton. Et aujourd'hui ces thèmes et ces textes sont toujours d'actualité, plus que jamais même. Alors que c'est une star, c'est une étoile, c'est l'étoile de la country. Si j'en citais qu'une, ce serait elle. C'est une étoile de la country et elle est toujours vivante aujourd'hui, et voilà.
Et comme tu dis, d'actualité, puisque elle a travaillé sur le dernier album de Beyoncé autour de la country notamment. Donc de la country, il en est question donc dans cette rubrique aujourd'hui. Il faut préciser, Laurent, que donc tu interviendras jeudi prochain, le jeudi 25 juin à 18h30 au Cube, dans le cadre du partenariat avec le Cube et le réseau des médiathèques, dans le cadre des jeudis juin précisément, qu'organise le Cube tous les jeudis de juin et le premier week-end de juillet et le premier jeudi de juillet de cette année. On rappelle brièvement pour nos auditrices et auditeurs que les jeudis juin sont des soirées gratuites organisées par le Cube depuis plusieurs années, qui proposent en terrasse des DJ sets, concerts, music market, conférences, entre autres, avec apéro et food truck. Et donc ce jeudi, le jeudi 25 à 18h30, tu nous proposes une rencontre échange avec Clovis Gou autour de son livre, comme on le disait, Au cœur de la country, légende et phénomène. Avant d'aborder ce livre qui parle, comme on a pu démarrer cette rubrique, qui parle de la musique country, donc à toi personnellement, c'est quoi ton lien personnel avec la musique country? Comment et quand tu as découvert cet univers musical, et dans quel contexte exactement?
Alors j'oserais dire Elvis Presley. Il y a aussi le chanteur qui m'a le plus fasciné. Alors Elvis Presley, pas forcément associé à la country, mais qui m'a le plus fasciné, que j'écoute toujours aujourd'hui avec autant d'intérêt, c'est Elvis Presley. Et Elvis Presley, c'est ce musicien convergent qui a hérité à la fois de la culture blanche de la country, qui même si elle vient du blues et de la communauté afro-américaine, c'est une musique qui est associée à tort, hein, en partie, et ça on le verra jeudi avec Clovis, à la communauté blanche, et puis les rythmes afro-américains du rhythm and blues. Donc sans Hank Williams par exemple, qui était la presque une star du rock and roll avant l'heure, hein, qui était un grand chanteur de musique country, il y aurait pas eu Elvis Presley. Donc moi, mon rapport avec ces musiques là évidemment, il est très fort. J'adore les musiques de l'entre-deux-guerres aussi, parce que je trouve, bon, ça c'est complètement personnel, je trouve qu'il y a une pureté stylistique là-dedans. Les années 30, c'est le début de l'industrie du disque, c'est un petit peu avant, et du coup l'industrie du disque a pas encore trop formaté les artistes. Et moi, ce côté, cette musique qui vient vraiment de la terre et de la, j'oserais dire du fond de la solitude du cœur humain, comme le blues, pour faire des mots compliqués, c'est vraiment des musiques qui me touchent. Par exemple, j'adore, si vous connaissez Alan Lomax, qui était ethnomusicologue, qui a fait tout un tas de qui a enregistré tout un tas de gens dans le sud des États-Unis, puis après en Europe, en Afrique du Nord et dans les Caraïbes. Il est enregistré les gens vraiment dans leur environnement, quoi, et qui est un